Voici la traduction en français de la conférence enregistrée numéro 6407C09SHSBC28 intitulée L'étude, l'assimilation des données. C'est une conférence donnée par L. Ron Hubbard le 9 juillet 1964 aux étudiants du Saint Hill Special Briefing Course. Copyright 1964-1982, L. Ron Hubbard, tout droit mondial de reproduction réservé. Quelle est la date aujourd'hui? Le 9 juillet. Le 9 juillet, AD 14. Très bien. Bien, quel est votre point faible? L'auditing. Franchement, je n'ai rien à vous dire, vous progressez tous si bien, c'est moi qui suis à la traîne. Mais je vous ai donné pas mal de conférences sur l'étude, comment étudier et comment faire ceci et cela, je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce que je vous ai déjà dit. Mais je ferai mieux de l'ajouter quand même. Lorsque vous essayez d'assimiler une donnée, voici les choses auxquelles vous devez faire attention et sur lesquelles vous trébuchez. La nomenclature. La nomenclature. Que veut dire tel mot? Et voilà la chose sur laquelle vous trébuchez, essentiellement, parce que vous êtes ensuite incapable de lire une phrase qui contient ce mot et de comprendre la signification de cette phrase. Donc la nomenclature est un obstacle majeur dans une étude, quelle qu'elle soit. Maintenant, nous n'avons pas en scientologie de glossaire détaillé et bien conçu, bien que nous possédions un glossaire pour les matériaux du cours classe 6. Et le domaine de la nomenclature inclut le fait de savoir quelle est la définition de tel ou tel mot. C'est une chose d'avoir la définition, mais c'est tout autre chose de concevoir ce que la définition signifie. Maintenant, vous avez le mot GPM. Très bien, prenons cet élément de la nomenclature. GPM signifie Goals, Problem, Mass, c'est-à-dire But, Problème, Mass. Si vous ne combinez pas ce genre de choses avec une observation et une application à la table à modeler, même la nomenclature vous paraîtra relativement dénuée de sens. Autrement dit, il s'agit d'une chose réelle. Il existe quelque chose appelé GPM. Ce n'est pas seulement une idée. C'est un GPM. Il y a un ou deux PC, pas forcément dans ce cours d'ailleurs, qui ont des difficultés énormes avec un GPM parce qu'ils ne sont pas d'accord avec cet élément de la nomenclature. Ils disent, eh bien ça n'a pas de masse. C'est Ron qui pense que ça a de la masse et ça n'a pas de masse. Donc bien sûr, un GPM ça n'existe pas. Eh bien, essayer d'auditer quelqu'un sur quelque chose qui n'existe pas est un peu difficile. Et le plus bizarre, c'est que c'est vrai. Un GPM, ce sont des buts, des éléments de force égale, de force très égale, qui sont en opposition et suspendus dans l'espace, ce qui donne un problème. Donc on donne une nomenclature à un sujet, alors qu'on ne sait pas encore tout du sujet, de façon à pouvoir décrire ce sujet et travailler avec. Voyez ? Maintenant, à mesure que nous progressons, nous constatons que nous aurions probablement pu avoir une meilleure nomenclature. Mais à ce moment-là, tout le monde sait qu'on appelle telle chose de telle façon, et ce serait la catastrophe la plus totale si vous commenciez à l'appeler autrement. De plus, nous ne pouvons pas l'appeler cette chose. Donc nous continuons de l'appeler GPM. Maintenant, bien sûr, GPM signifie but, problème, masse. Mais ce n'est pas important, ce n'a pas d'importance ce que le G ou le P ou le M signifie. Il s'agit de symboles qui sont là pour représenter quelque chose. Eh bien, qu'est-ce que cette chose? Si vous dites simplement « un GPM est une chose », et elle a telle forme et telle structure, et si vous travaillez avec ce concept à la table à modeler, vous commencerez soudain à comprendre ce que c'est. De plus, vous êtes en plein territoire inexploré. Il n'existe pas de langue adéquate pour représenter les diverses parties du mental. Si vous vous servez de la terminologie employée par la psychiatrie, vous ne savez pas dans quoi vous allez vous fourrer. Franchement, impossible de dire dans quoi vous allez vous fourrer. Parce que le psychiatre est complètement dans l'erreur. Et quand il se sert d'un mot pour décrire quelque chose, ce mot peut avoir des sous-entendus. Et donc, si nous nous servions de ce mot, nous pourrions communiquer quelque chose de totalement incorrect et amener quelqu'un à croire qu'il sait de quoi nous voulons parler, alors qu'en fait, il n'en a aucune idée. Nous aurions donc mélangé notre terminologie avec celle d'un autre domaine, avec une terminologie qui signifie autre chose. Et voici la raison pour laquelle vous ne pouvez pas mélanger notre terminologie avec celle de la psychiatrie. La psychiatrie poursuit un tout autre objectif et s'appuie sur des principes totalement différents. Leur objectif est de rendre les gens silencieux, pour vous dire à quel point leur objectif est différent. Si jamais vous avez un PC très silencieux, vous avez intérêt à vous démener. Le psychiatre a une conception toute particulière du traitement, basée sur le fait que les hommes sont des animaux, c'est pour lui le dénominateur commun de tous les hommes, que les hommes sont des animaux spontanément issus d'une mer d'ammoniac, et que la pensée s'effectue par le cerveau, etc., etc. Donc voilà un domaine complètement différent, et il n'a pas produit de résultat. Donc nous n'avons pas besoin de lui accorder notre attention. Nous nous moquons pas mal que quelqu'un vienne battre le tambour en disant « c'est une autorité ». Une autorité, c'est quelqu'un qui obtient des résultats. C'est ça, une autorité. Un peintre, c'est quelqu'un qui est capable de peindre un tableau. La définition de « autorité » en matière de peinture est devenue « quelqu'un qui sait critiquer un tableau ». Ma foi, n'importe qui est capable de critiquer un tableau, donc je suppose qu'un enfant est une autorité en matière de peinture. Donc cette définition ne tient pas debout, si on l'examine d'un œil critique. Non, une autorité, c'est quelqu'un capable d'appliquer le sujet. Et notre monde, livré à l'apathie et à l'échec, incapable de faire quoi que ce soit, a choisi des autorités incapables d'appliquer. Donc vous pourriez frayer avec des domaines qui ont échoué, et cela seul suffirait à introduire un élément d'échec en scientologie. Donc ne touchons pas à leur technologie, ne touchons pas à leur nomenclature. Nous ne pouvons pas parler du « ça » et de l'ego, nous ne pouvons pas vraiment parler de l'inconscient. Autrement dit, nous ne pouvons pas relier ce que nous faisons à ce qu'ils ont fait, parce qu'ils n'ont rien fait. Nous nous casserions immédiatement le nez, nous nous retrouverions en piteux état. Donc nous devons donner à notre technologie une nomenclature qui en transmette le sens. Et c'est nous qui sommes capables d'obtenir des résultats dans le domaine du mental. Donc c'est nous les autorités. Par conséquent, inutile de faire attention à ceux qui prétendent être les autorités. Parce que n'importe quel fou furieux pourrait arriver et dire « Je sais tout sur les raisins, c'est moi la plus grande autorité du monde en matière de raisins. » N'importe quel fou furieux pourrait le faire, voyez. Il pourrait hurler jusqu'à la fin des temps « C'est moi la plus grande autorité au monde en matière de raisins. » Et d'autres fous pourraient arriver et dire « Tu es la plus grande autorité au monde en matière de raisins. » Et personne ne penserait peut-être à demander à ce fou « Est-ce que tu as déjà mangé du raisin ? Vu du raisin ? Fait pousser du raisin ? Ou fait quelque chose avec du raisin ?» Et bien sûr, s'il répond non à toutes ces questions, c'est que le gars est fou furieux. Ce serait l'évidence même. Et vous avez là un psychiatre. Il n'a jamais vu de mental, il n'en a jamais créé un, il n'en a jamais changé un, il n'a jamais obtenu le moindre résultat dans ce domaine. La seule chose dont il peut se vanter, c'est d'avoir été un peu destructif. Et il hurle à tue-tête que c'est lui l'autorité. Et que nous devons donc nous servir de sa nomenclature. Maintenant, à un moment ou à un autre, on va vous demander « Pourquoi n'employez-vous pas la terminologie standard ?» Eh bien, voici la réponse à cette question. La terminologie standard de qui ? Avant de pouvoir qualifier une terminologie de terminologie, il faudrait déjà que la personne qui l'emploie obtienne des résultats. Donc l'homme n'a pas compris grand-chose à ce domaine particulier, et il a été jusqu'à permettre que la nomenclature de ce domaine soit normalisée par des gens qui n'y connaissaient rien. Voilà la façon la plus démentielle de faire les choses à l'envers. Non seulement il n'y a pas de terminologie, mais une grande part de la terminologie est fausse. La terminologie est fausse. Et vous commencez à prendre les commandes de ce domaine, vous allez avoir des ennuis. Tôt ou tard, quelqu'un va vous dire « Pourquoi ne vous servez-vous pas de la nomenclature standard ? Pourquoi ne faites-vous pas ceci ? Pourquoi ne faites-vous pas cela ?» Ma réplique à ce genre de questions est bien sûr toujours très brutale. Quand quelqu'un me cherche des noises, comme ça, je me dis qu'il ne me veut pas du bien. Je ne fais jamais l'erreur de croire qu'il me veut du bien. J'en fais donc de la bouillie pour chat. Je réponds quelque chose du genre « Eh bien, pourquoi n'avez-vous pas développé quelque chose d'applicable ?» Vous avez le docteur Maboule, là, devant vous. « Pourquoi n'employez-vous pas la terminologie standard pour que les gens vous comprennent ? Pourquoi diable n'en avez-vous pas inventé une ? Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Pourquoi ne savez-vous rien du mental ? Pourquoi vous faites-vous passer pour ce que vous n'êtes pas ? Vraiment, comment osez-vous ? Mais j'ai un diplôme. Oui, je sais, ce diplôme ne veut rien dire. Prenez l'un de vos patients ici, allez le guérir. Je veux le voir de mes propres yeux. Mais c'est impossible. Ce qui prouve que vous êtes un charlatan. Allez vous faire voir. Voilà ma conception d'une conversation polie avec l'un de ces oiseaux. Je déteste les charlatans. Et il est intéressant de constater que la seule boue dont ils sont capables de nous couvrir, c'est de dire que nous sommes des charlatans. Celui qui dit, c'est celui qui est, comme le disent si bien les enfants. Donc vous allez inévitablement avoir des ennuis avec la terminologie, avec la nomenclature. N'allez pas croire que je n'ai pas eu de problème avec la terminologie. Comment faire pour inventer un mot qui décrive quelque chose qu'on peut trouver, qu'on peut examiner et qui existe vraiment, sans pour autant entrer en conflit avec la nomenclature d'un domaine qui a échoué ? Comment faire pour pénétrer dans ce périmètre ? Oh, nous pourrions probablement avoir une meilleure nomenclature, mais il y a un problème. Vous. Vous acceptez certains termes, et vous commencez à les utiliser dans votre conversation de tous les jours, et la dernière chose à faire, ce serait que je vous enlève ces termes et que je vous dise « Eh bien, en fait, j'ai trouvé un meilleur mot. Les quelques termes scientologiques que vous connaissez sont dorénavant nuls et non avenus. Nous allons les remplacer par une toute nouvelle terminologie. » Vous seriez dans tous vos états, pas vrai ? Donc, la terminologie est liée au facteur « évolution par l'emploi ». Non seulement nous avons développé la terminologie, et il est arrivé que certaines définitions aient été un peu vacillantes. Mais nous l'avons ensuite employée et imprimée. Ces mots apparaissent dans les bulletins et sur vos certificats, etc., etc. Vous remettez le diplôme de HCA à quelqu'un, eh bien il est censé savoir ce qu'est un mental réactif. Parfait. Et le lendemain, nous l'appelons autrement. Nous venons d'effacer une partie de son éducation. Et à cause de cela, il aura du mal à communiquer avec ceux qui étudieront le sujet plus tard. Si nous cherchions une dissonance, eh bien nous obtiendrions une cacophonie de tous les diables en démolissant la terminologie que nous avons développée. Nous devons donc sauvegarder la technologie que nous avons développée. Et donc, quand nous en apprenons davantage sur le sujet, il se peut que le mot ne corresponde plus à la réalité, mais nous continuons de l'employer. Donc la seule chose à faire pour nous, c'est de choisir les choses du mental qui sont les plus importantes et de nous arranger pour que cette terminologie reste aussi standard que possible. Tout d'abord, essayez de la développer intelligemment, de façon à ne pas être en conflit avec quelque activité plus ancienne et à ne pas introduire de malentendus. Ensuite, employez-la et faites-en quelque chose de standard. Et puis, n'allez pas tout changer une fois que tout le monde l'a apprise. Donc, il faut maintenir une constante en ce qui concerne la nomenclature et la terminologie. Et le mot GPM ne changera jamais. Jamais. On s'en sert trop depuis trop longtemps. Voyez-vous ? Maintenant, une autre responsabilité nous incombe. Ne pas inventer trop de mots, ne pas y aller à fond, ne pas essayer de donner un nom bizarre et interminable à tout ce qui nous passe devant les yeux. Le vocabulaire de la scientologie compte probablement 472 mots majeurs environ, ce qui est un très petit vocabulaire technique. Le vocabulaire médical se compose de quelques 20 ou 40 000 mots, quelque chose comme ça, de mots très étranges qui ne veulent rien dire. Donc il vous faudra relativement peu de temps pour apprendre la langue scientologique comparé à d'autres domaines techniques. Maintenant, vous pourriez maugréer à propos de la nomenclature de certains domaines techniques. Et très souvent, elle n'est pas plus bête que la scientologie est inapplicable. Certains de ces domaines spéciaux sont vraiment merveilleux. Mais si vous avez un penchant pour ce genre de choses, si vous êtes doué, si ces nomenclatures, ces terminologies et ces langues spéciales vous amusent, vous aurez du bon temps avec certaines de ces terminologies. J'en sais quelque chose. J'ai récemment frayé avec le monde du cirque. Heureusement, je connais un peu la terminologie du cirque. Mais c'est la terminologie américaine et je ne sais pas si elle s'applique au cirque anglais. Je vais maintenant vous parler de la terminologie de l'élite. Ces langues, ce sont toutes des langues snobs, y compris la langue scientologique. Le gars sort de sa classe de HCA et lance un ou deux mots. Deux ou trois personnes comprennent ce qu'il a dit et lui font un petit signe de complicité. Comme si un membre de la loge venait de donner le mot de passe. Les autres gens alentour restent là bouche bée et se disent qu'ils sont en train d'écouter l'élite. Eh bien, c'est assez vrai, voyez-vous. Il y a là quelqu'un dont la compréhension est supérieure. Mais c'est une façon de signaler qu'on fait partie d'une certaine classe. Et je ne pourrais pas vous empêcher de le faire, même s'il le fallait. Dans le monde du cirque, le carnaval est quelque chose de très bas. Pour les gens du cirque, un carnaval est quelque chose de très méprisable. C'est quelque chose qui a une position bien déterminée dans l'échelle sociale, ce qui fait que vous n'osez pas employer la terminologie relative au carnaval. Je connais environ 4 ou 500 mots de cette terminologie. Et vous n'osez pas employer ces mots pour décrire les choses et les actions identiques que l'on trouve dans le monde du cirque. Et le monde du cirque a peut-être 700, 800, 1000 mots pour ces mêmes choses. Vous rencontrez ce genre de phénomène avec le hollandais et le flamand et d'autres langues, donc vous devez faire très attention à ce genre de choses. Par contre, vous pouvez reconnaître un maître organiste, je parle du monde de la musique maintenant, vous pouvez reconnaître un grand pianiste de concert au respect avec lequel il prononce le mot « Steinway » et avec lequel il parle de son instrument et de ses partitions. Vous le reconnaissez toujours. Il joue au snob avec son queue de pie et les ondulations de ses mains au-dessus du clavier. Vous savez tout de suite à qui vous avez affaire. Vous avez affaire à un pianiste classique, un pianiste de concert classique. Et il a une terminologie à vous couper le souffle. S'il commençait une conversation avec un chef d'orchestre, vous en resteriez comme deux ronds de flanc. Vous ne croiriez pas qu'il puisse exister tant de termes musicaux empruntés à l'allemand ou à l'italien. Et franchement, cette conversation passerait par-dessus la tête de la plupart des musiciens de l'orchestre. Ils diraient « Mon Dieu, écoutez-moi ça !» Mais prenez l'orgue. L'orgue n'est pas la même chose qu'un piano. Ce n'est pas un instrument de percussion. Sauf quand vous pressez la touche percussion. Mais le piano, bien sûr, est exclusivement un instrument de percussion, selon la classification moderne. Il est classé dans la catégorie des instruments de percussion. Eh bien, c'est un instrument de percussion très difficile à jouer, qui requiert beaucoup de virtuosité. Par contre, un orgue, vous pouvez presser telle touche, et il va sonner comme un piano. Vous pouvez aussi le faire sonner comme un clavecin, vous pouvez pratiquement en tirer, en sortir, n'importe quel son. Et récemment, j'ai frayé avec des organistes professionnels, de vrais pros. Vous savez, des organistes de théâtre, des organistes de cirque, des gens comme ça. J'ai eu les cheveux qui se dressaient sur la tête. Dans leur branche, ces gars sont aussi respectés que le pianiste de concert, et même un peu plus. Il vous faut être comme Vishnu et avoir 8 bras pour pouvoir jouer de l'orgue. Et leur terminologie vous ferait tomber à la renverse. Il y a 2 sortes de terminologie. Et quand vous devenez vraiment professionnel dans le domaine de l'orgue, c'est-à-dire quand vous n'êtes pas seulement organiste, mais aussi architecte d'orgue, quand vous faites partie des as, eh bien vous changez de terminologie. Et la terminologie de l'orgue que l'on connaît habituellement, c'est celle du musicien moyen. Mais lorsque vous arrivez chez les cracks, vous trouvez une autre terminologie. Donc il y a 2 terminologies dans le domaine de l'orgue. Le véritable pro et le véritable snob dans ce domaine opèrent un revirement complet quand ils quittent le domaine de la simple musique pour entrer dans celui de l'expérimentation musicale et de la construction des orgues. Dès que nous entrons dans ce domaine, nous nous trouvons dans un autre monde. Les odeurs et le paysage ne sont plus les mêmes. Et les termes qu'ils emploient sont si peu courants que lorsque je les ai entendus parler pour la première fois, je n'ai rien compris à ce qu'ils racontaient. C'était du chinois. J'étais complètement perdu. Finalement, ça n'a plus été du chinois pour moi et j'ai commencé à travailler un peu dans le domaine de l'orgue, à me lancer un peu dans la conception d'orgue. J'ai travaillé avec ces oiseaux. Et je ne connais rien qu'une petite partie de leur terminologie. Ils n'arrêtent pas de m'étonner. Mais j'en suis à un point maintenant où je sais de quoi ils parlent. Par exemple, l'organiste de la cathédrale Saint-Paul, qui est probablement l'un des tout premiers organistes d'Angleterre, vous parlera du pédalier, c'est-à-dire le clavier inférieur de l'orgue qui est activé par les pieds. Mais quand vous avez affaire au snob du métier, ça ne s'appelle plus un pédalier, ça s'appelle un firewood, c'est-à-dire littéralement bois à brûler. Et l'organiste de la cathédrale Saint-Paul parle sans aucun doute de notes, de tuyaux de temps et temps de pieds. Mais les vrais snobs appellent ça des bruits. Ce sont des bruits. Et ils vous disent ça avec le plus grand sérieux. Et la première fois que je les ai entendus, j'ai cru qu'ils blaguaient. Et chaque fois que je les entendais prononcer l'un de ces mots, je faisais l'erreur de rire aux éclats, et je montrais par là que je ne connaissais strictement rien au sujet. Maintenant, j'en suis parvenu au point où je peux discuter avec eux. Je commence à être à leur niveau. J'en suis arrivé à un point où j'ai pu développer une certaine technique de pédalier. Je suis capable de jouer un morceau avec le pédalier qu'ils croyaient impossible de jouer avec un pédalier. Je suis en train de m'exercer dur. Et je vais prendre ma revanche la prochaine fois que je les vois. Je vais les laisser baba. Mais ce que je veux dire, c'est que lorsque vous pénétrez dans le sanctuaire secret d'une profession, vous laissez tout naturellement tomber le vocabulaire purement snob et vous vous retrouvez en plein jargon. Dieu seul sait comment un médecin appelle les amygdales quand il dîne avec d'autres médecins. Il doit probablement les appeler autrement. Donc son vocabulaire change. Au départ, il a un vocabulaire très formel, un vocabulaire d'une formalité extrêmement forcée qui touche presque à l'idolâtrie. Et puis, à mesure qu'il se familiarise avec le sujet, son vocabulaire devient de plus en plus du jargon. Et nous autres scientologues, eh bien, nous ne sommes pas passés par tout un vocabulaire pompeux pour aboutir à notre jargon. Nous avons court-circuité ce processus. C'est vrai ce que je vous dis au sujet de la nomenclature. La nomenclature, lorsqu'elle est employée par les gens qui connaissent le sujet, n'est jamais sérieuse. C'est quelque chose de pas sérieux du tout. Il faut voir un peu les noms que les électroniciens donnent à un circuit ou à une connexion dans une fusée lunaire. Ce ne sont probablement pas les noms qu'on leur a enseignés à l'université. Ils vont appeler telle chose un schmurnufle. C'est pratiquement du petit nègre qu'on parle lorsqu'on est parmi les cracks d'une profession. C'est assez dément. Eh bien, nous autres scientologues, nous sommes allés de A à B. Comme nous ne possédions aucune langue formelle pour notre sujet, nous n'avons pas vraiment développé de langue secondaire. Je veux dire, nous sommes déjà en plein dans notre langue secondaire. Donc nous avons pris un raccourci. Nous pourrions développer une nomenclature très pompeuse, très formelle, un vocabulaire de 2 ou 3 000 mots peut-être, et vous dire de l'apprendre par cœur et de discuter du sujet avec une grande solennité. Seulement, vous finiriez quand même par développer un vocabulaire beaucoup moins long, qui ne serait rien d'autre que du jargon. Nous sommes directement passés au jargon, et c'est pourquoi notre langue ne semble pas solennelle. Notre vocabulaire n'est pas pompeux, vu qu'il n'y avait aucune raison d'en passer par là. Donc, quand quelqu'un vous reproche de ne pas employer la terminologie psychanalytique correcte, c'est probablement que c'est un bleu dans le domaine de la psychanalyse. Il a eu son diplôme, il ne s'est pas beaucoup mouillé, autrement dit c'est un néophyte. Sinon, il n'aurait pas ce profond respect pour la nomenclature. Son attitude est le signe qu'il en est encore au stade où il mémorise sans savoir. Normalement, au bout d'un moment, quand il commence à savoir, il réduit très nettement et très rapidement son vocabulaire. Et bien sûr, il en va de même avec un organiste qui conçoit et qui construit des orgues. Par exemple, Kit Francis, l'organiste de cirque, n'a pas de registre. Ou plutôt, les registres qu'il a sur son orgue ne correspondent pas à ce qui est écrit en face de chaque registre. Il a balancé la plupart des registres. Il les a balancés quand il a reconstruit son orgue. Tout ce qu'il a fait, c'est prendre les combinaisons de sons des générateurs et relier chaque registre à chaque combinaison de sons différents des générateurs. Et il sait que s'il tire tel ou tel registre, il va avoir ces deux sons qui viennent du générateur. Ils vont se combiner et donner un certain son. Il a installé une combinaison électronique de sons, et il s'est même débarrassé des deux jeux principaux de l'orgue et des piccolos. Et ce qui est écrit en face de chaque registre ne veut plus rien dire. Et voilà. En fait, l'autre jour, je l'ai vu combiner des tons aigus et sortir un son de tuyau de 64 pieds, alors que son orgue n'a même pas de tuyau de 32 pieds. Et il a réussi à combiner deux tons qui, ensemble, donnent un son grave. Et soudain, vous vous retrouvez en pleine cathédrale Saint-Paul. Mais cet orgue n'a pas de registre pour ça. Et il n'appelle même plus les bruits par leur nom traditionnel. Autrement dit, quand un gars connaît son boulot, il se débarrasse généralement de la nomenclature dont il n'a pas besoin. Il la balance. Et très souvent, avec les confrères qui connaissent le sujet aussi bien que lui, il développe une espèce de jargon simplifié pour décrire le sujet. Eh bien, comme je connaissais ce phénomène, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour réduire au maximum le vocabulaire de la scientologie et le maintenir autant que possible dans le domaine du jargon où il aurait abouti de toute façon. De cette manière, je vous évitais pas mal de difficultés. Mais si vous reveniez en arrière pour trouver toutes les choses auxquelles nous avons donné un nom au cours de toutes ces années, vous vous retrouveriez probablement avec un vocabulaire qui dépasse largement les 472 mots. Mais il y a beaucoup de ces mots que nous avons balancés. Et un grand nombre de vétérans les connaissent encore. Si vous parliez d'un DEDEX, la plupart des nouveaux venus vous regarderaient bouche bée. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, un DEDEX, c'était un DEDEX. Maintenant, la connaissance d'un sujet repose dans une très grande mesure sur la connaissance de sa nomenclature. Et c'est un fait que les enseignants et les étudiants n'apprécie presque jamais à sa juste valeur. Ils essaient de parler et d'employer une langue qu'ils ne connaissent pas. Et ça peut dégénérer au point où ils croient que le sujet est incompréhensible ou qu'ils sont incapables de le comprendre, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout ça le problème. C'est simplement qu'ils n'ont pas compris la signification de quelques-uns des symboles dont on se sert pour désigner les choses. Ils ne comprennent pas ces symboles instantanément. Ils les comprennent en cafouillant. C'est-à-dire que s'ils réfléchissent un moment, peut-être qu'ils seront capables de se rappeler ce qu'est un engramme. Voyez ? Voilà leur façon de comprendre. Donc ils lisent la phrase. Bien sûr, il peut y avoir un engramme au milieu du GPM. Et les voilà obligés de réfléchir. Il peut y avoir un engramme, il peut y avoir un engramme, un engramme. Je ne sais plus très bien ce que ça veut dire. Bon, disons donc qu'il peut y avoir quelque chose au milieu du GPM. Et ils arrivent au paragraphe suivant, et ils ont maintenant l'impression qu'il y a quelque chose sur le GPM qu'ils ne savent pas. Et cela les accompagne dans le paragraphe suivant. Et à force de passer la nomenclature qu'ils ne comprennent pas pendant qu'ils étudient, ils arrivent à la conclusion qu'ils ne connaissent pas le sujet. Ce n'est pas le sujet qu'ils ne connaissent pas. Pour que quelque chose persiste, il faut qu'il y ait un mensonge. Et le mensonge, c'est que ce n'est pas avec le sujet qu'ils ont des problèmes, mais avec la nomenclature. Ils ne connaissent pas la nomenclature, et ils arrivent donc plus ou moins à la conclusion qu'ils ne connaissent pas le sujet ou qu'il y a dans le sujet quelque chose de complètement incompréhensible. Non, ça ne vient absolument pas du sujet. C'est tout simplement qu'ils ne connaissent pas la nomenclature. Par exemple, cela pourrait commencer quelque part dans une classe de HCA ou de HPA. Un jour, quelqu'un dit « Tu sais, ce n'est pas important, ce n'est qu'un loc. » Et l'étudiant dit « Ce n'est qu'un loc. Un loc. Un loc. » Et puis il est interrompu dans ses pensées, avant qu'il n'ait eu le temps de se rappeler ce qu'est un loc. Et en fait, cette petite incompréhension de base dans la nomenclature va subsister sur la piste de temps, et il va automatiquement avoir un comlag chaque fois qu'il rencontre le mot « lock ». Et il en arrive à un point où, un jour, il lit une phrase ici à Saint-Hilaire, et cette phrase dit « Vous devez vérifier cela parce qu'il pourrait ne s'agir que d'un lock ». Et il a une fois de plus ce sentiment d'être pourchassé. Et maintenant, il pense qu'il ne sait pas grand-chose sur les vérifications. Il va l'attribuer à la mauvaise cause, car il ne voit pas la véritable cause. Donc maintenant, il croit qu'il ne sait pas grand-chose sur les vérifications. Non. Dans la phrase qui parlait de vérification, il y avait un mot qu'il ne connaissait pas. Voyez l'importance de la nomenclature. Il est essentiel de comprendre la nomenclature employée, quel que soit le sujet étudié. Par exemple, je suis en train d'étudier un cours parallèlement pour avoir un meilleur aperçu de l'étude de la scientologie. Et l'une des choses très très intelligentes à faire, c'est de prendre une page du texte et de regarder tous les mots que vous ne comprenez pas. Tous les mots que vous ne comprenez pas instantanément. Entourez-les ou faites-en une liste et étudiez-en la définition. Ou bien demandez les définitions à quelqu'un. Trouvez-en le sens exact. Ne commencez pas à lire la page. Voyez simplement les mots de la page. Maîtrisez parfaitement la nomenclature, puis attaquez-vous au sujet. Vous constaterez que le sujet était très facile. Tout ce que le texte vous disait, c'était que si vous auditez un facsimilé de service qui n'a pas donné de TA lorsque vous l'avez exploré, eh bien le PC se retrouvera en piteux état vu que vous auditez quelque chose qui n'a pas de TA. Et voilà, à quoi le texte était consacré. Mais la personne se heurte à ce mot « facsimilé de service ». Qu'est-ce que c'est que ça? Et ce mot-là, qu'est-ce qu'il veut dire? Eh bien, si vous voulez vous retrouver en plein mystère, allez-y, étudiez des pages dont vous ne connaissez pas les mots. Vous serez servi. Maintenant, ce vocabulaire est tellement normal pour vos instructeurs, il est tellement en usage parmi les gens ici, ils sont tellement snobs, c'est vrai, ils sont snobs et continueront de l'être parce que c'est une question de statut et de niveau de compétence, qu'ils vont expliquer cette nomenclature à l'étudiant avec un peu de mépris. Et cela risque de vous couper l'envie de poser des questions du genre « qu'est-ce qu'un facsimilé de service ?» parce que dans le ton qu'ils adoptent pour vous répondre, vous avez l'impression qu'ils vous disent en fait « Espèce d'idiot, pourquoi ne consultes-tu pas ton bulletin? Comment peut-on ne pas savoir une telle chose ?» Et c'est ça qui transparaît dans l'atmosphère quand on répond à vos questions. Ce qui vous donne l'impression d'être bête parce que vous ne saviez pas. Eh bien, il n'y a vraiment rien à faire pour remédier à cet état de choses. Bon, je pourrais dire, soyez toujours poli quand vous répondez aux questions d'un étudiant. Mais tout ce que je réussirais à faire, c'est créer de l'hostilité cachée chez les instructeurs. Ils se montreraient polis en répondant aux questions, mais ils recaleraient tous les étudiants pendant 24 heures. Vous risquez de déclencher quelque chose de complètement dément quand vous commencez à vouloir refréner un processus naturel. Donc ce que je veux dire ici, c'est ne vous laissez pas abattre parce que quelqu'un vous trouve stupide sous prétexte que vous ne saviez pas quelque chose. Si vous ne savez pas quelque chose, vous n'êtes pas stupide. Vous manquez tout simplement d'informations. Et si vous manquez d'informations, ne devenez pas préoccupé par votre statut au point de croire qu'il vous faut avoir l'air intelligent pour qu'on pense du bien de vous. Ça n'a rien à voir. Vous êtes ici pour apprendre. Et je suppose que si quelqu'un étudie quelque chose, c'est pour l'apprendre. Peut-être acquerra-t-il un certain statut après l'avoir appris, mais il n'acquerra aucun statut en faisant croire qu'il sait alors qu'il ne sait pas. Tout ce qu'il y gagnera, c'est des maux de tête. Donc, quelles que soient les rebuffades que vous essuyez ou quelles que soient les difficultés que vous rencontrez en piochant un livre, vous vous fourrez immédiatement dans le pétrin dès le moment où vous laissez derrière vous un mot dont vous ne connaissez pas le sens. Il suffit d'un mot mal compris pour que vous ne compreniez plus rien à ce que vous étudiez. Maintenant, si vous voulez comprendre quelque chose plus vite, adoptez la méthode lente. Enfin, apparemment. De toute évidence, voilà une méthode lente, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas la méthode lente, parce qu'elle fait boule de neige. C'est-à-dire que vous irez de plus en plus vite. Alors que si vous ne suivez pas cette méthode, vous irez de plus en plus lentement. Donc, quand vous étudiez, ne laissez jamais derrière vous un mot dont vous ne connaissez pas le sens. Et quand vous m'entendez employer un mot dans une conférence, et j'essaye d'avoir une nomenclature aussi simple que possible dans mes conférences, quand vous m'entendez employer un mot dont vous ne connaissez pas le sens, pour l'amour du ciel, prenez-en note et cherchez-en le sens juste après la conférence. Car c'est quelque chose qui vous est passé par-dessus la tête. C'est ça l'obstacle. C'est la chose que vous ne comprenez pas, l'obstacle. Et non pas le mental ou la scientologie ou les théories et la pratique de la scientologie. Le tout premier obstacle, c'est tout bonnement la nomenclature. Maintenant, la nomenclature existera toujours, peu importe les réformes qu'on pourrait entreprendre, parce qu'à la base, nous avons affaire à des choses qui jusqu'à présent étaient inconnues, et il faut donc qu'elles aient un nom. Maintenant, il se peut que quelqu'un qui ne connaît pas le sujet vous dise que l'on connaissait déjà certains de ces mots, certaines de ces choses, mais il dit cela parce qu'il connaît mal le sujet. Il ne sait pas de quoi vous parler, alors il croit que ce n'est pas nouveau. Par exemple, il va essayer de comparer le tétan au ça. Et il va dire, mais Freud a déjà décrit tout ça, il a parlé du ça, et le ça, c'est blablabla. Eh bien, il est probable qu'une personne qui vous dit cela ne connaisse vraiment pas la description que Freud a donnée du ça. Et si elle comprend le sujet de travers, c'est parce qu'avant, elle n'a pas compris la nomenclature. Donc, si vous voulez vous retrouver en plein millimélo, recevoir beaucoup de passes péniblement acquis, et progresser de plus en plus lentement, eh bien, commencez à laisser derrière vous des mots dont vous ne connaissez pas le sens. Par exemple, vous arrivez au milieu de la page et vous tombez soudain sur un mot que vous n'avez jamais vu. Dites simplement « Bon, on verra ça plus tard. » Puis poursuivez. Pourquoi ne pas dire tout de suite « Bon, je vais me trancher la gorge et rallonger mon cours de plusieurs semaines. » Parce que c'est ça qui va se produire. Ensuite, il y a le sujet lui-même. La compréhension du sujet, la façon dont le sujet est conçu, voilà le deuxième élément. C'est très bien de nommer quelque chose et de le définir, mais c'est quoi ce quelque chose que vous nommez? Si vous êtes très très intelligent, vous allez harceler, tourmenter, invectiver cette chose, cet élément du sujet, vous allez tourner autour. Nous parlons d'une chose ici, nous ne parlons pas de son nom, mais de la chose elle-même, et vous tournez autour jusqu'à ce que vous la compreniez bien. De quoi peut-il bien s'agir? Oui. Je vais vous en donner un exemple. Vous dites, eh bien, une personne a une mauvaise opinion de tel individu parce qu'elle a un overt contre lui. Très bien. Voilà donc quelque chose, voilà l'un des mécanismes qui est lié à l'enchaînement overt motivateur. En voilà l'un des phénomènes. Jean est furieux contre Roger, et si vous cherchez un peu, vous verrez que c'est parce que Jean a fait quelque chose à Roger. Eh bien, c'est exactement le contraire de ce que disent les gens dans la vie. Et à cause de cela, vous pouvez très facilement comprendre cette chose à l'envers. Il se croit que Jean est furieux contre Roger parce que Roger lui a fait quelque chose. Ah oui, j'ai compris. Ma foi, vous n'avez rien compris. Et par la suite, vous ne saurez jamais vraiment comment faire pour tirer un overt ou pourquoi vous devez tirer un overt, voyez. Vous êtes complètement passé à côté de ce mécanisme très important. Jean est furieux contre Roger parce que Jean a fait quelque chose à Roger. C'est ça qu'il faut comprendre. Eh bien, il y a plusieurs facteurs qui peuvent vous empêcher d'accepter cette donnée. Et le premier, et le plus important, et ce n'est pas celui-là qu'on pense d'habitude, c'est une mauvaise interprétation. Vous pensez avoir lu quelque chose que vous n'avez pas lu. Comme il est tellement commun de penser le contraire, c'est ça que vous comprenez. Ou bien, vu que c'est la donnée contraire qui est communément acceptée, vous vous dites que ça ne peut pas être vrai, vous ne pouvez pas y croire. Donc l'autre facteur qui se met en travers de votre chemin, c'est que ça paraît incroyable. Vous dites, ça ne peut pas être vrai. Eh bien, pour l'amour du ciel, quand vous rencontrez quelque chose d'incroyable, assurez-vous de bien connaître cette chose à laquelle vous ne croyez pas. C'est important. C'est important. Connaissez la chose à laquelle vous ne croyez pas. Pour la connaître, il vous faut passer par la première étape, la nomenclature. Ai-je bien compris le mot? Cette chose ici, ce mécanisme, ce phénomène, l'ai-je bien compris? Et vous verrez dans 90% des cas, en réexaminant la chose à laquelle vous ne croyez pas, que vous n'y croyez pas parce que vous l'aviez comprise autrement. Donc, quand vous rencontrez quelque chose qui vous laisse bouche bée, quoi, c'est impossible, qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est impossible. Voyez? Eh bien, au lieu d'aller vous jeter dans le lac ou de prendre du cyanure, vérifiez si vous comprenez bien les mots et la description de la chose elle-même. En vérifiant ces deux choses, vous verrez probablement que vous avez compris quelque chose de travers et que cette chose incroyable, soi-disant, n'était pas si incroyable que ça. Mais très facile à comprendre. Cela se produira dans 90% des cas. Les 10% qui restent, vous n'arrivez pas à voir comment ça fonctionne, vous êtes revenu en arrière et vous avez vérifié la nomenclature, vous avez vérifié la donnée à laquelle vous ne croyez pas et vous ne voyez toujours pas comment ça fonctionne. Eh bien, imaginez des exemples qui montrent que cette donnée est fausse et des exemples qui montrent que cette donnée est vraie. C'est le moment ou jamais d'appliquer cette donnée à vous-même et à la vie. Ça devient obligatoire. Vous devez l'appliquer à vous-même, vous devez l'appliquer à la vie. Est-ce que oui ou non, cette chose existe dans la vie? A-t-elle existé dans ma vie ou a-t-elle existé dans la vie de quelqu'un d'autre? Y a-t-il un incident ici qui démontre ce phénomène? Et vous vous mettez à examiner cette chose et puis vous découvrez d'habitude que c'est à cause d'un bouton ou quelque chose comme ça, que vous ne vouliez pas croire que cette donnée était vraie. Vous n'osiez pas croire que c'était vrai, ou quelque chose comme ça. Tout ce que vous avez à faire, c'est examiner la chose. Comment cela s'applique-t-il à moi? Comment cela s'applique-t-il à la vie? Est-ce que ça s'est déjà vu? Est-ce que je connais un incident qui démontrerait cette donnée? Eh bien, ces 10% dont je viens de parler tendront à s'évaporer, et vous finirez par dire « Ah, d'accord, j'ai compris maintenant ». Lorsque vous suivez cette procédure, votre savoir devient inébranlable. Et une étude attentive ne consiste pas forcément à être minutieux, brillant ou sage. Elle consiste simplement à faire attention. Vous étudiez en faisant attention. Et la chose à laquelle vous faites attention, Vous êtes en train de lire une page, dadadam, 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 et soudain vous tombez sur le mot Mashpro. Voyez ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Maintenant, je vais vous montrer la stupidité dont vous pouvez faire preuve. Continuez de lire. Continuez de lire, en espérant que l'explication arrivera bien un jour ou l'autre. Laissez passer ce mot. Et vous êtes fichu. Qu'est-ce que c'est que ce mot Mashpro ? Eh bien, vous avez intérêt à trouver tout de suite. Vous pourriez jeter un coup d'œil au reste de la phrase, au cas où le mot Mashpro serait défini, entre parenthèses. Cela arrive, parfois. Mais s'il n'y a rien, c'est qu'il s'agit de toute évidence d'un mot qu'on est censé connaître, et non d'un mot nouveau, vu qu'il n'est pas expliqué dans ce paragraphe. Donc c'est un mot connu. Si jamais vous allez plus loin que ça, vous vous serez entouré d'un joli petit mystère. Et vous allez commencer à fouiller les coins obscurs avec une lampe en vous demandant ce qui vous plonge dans le mystère. Et puis vous penserez que c'est le sujet qui est mystérieux, tout vous paraîtra mystérieux. Eh bien, revenez au moment où vous avez lu ce paragraphe sans en comprendre l'un des mots. Et donc, au moment où ce paragraphe ne vous communiquait plus. En ne comprenant pas ce mot, vous empêchez toute communication. Vous avez stoppé la communication entre ce que vous étudiez et vous. Vous avez également stoppé la communication entre vous et d'autres auditeurs. Et, chose étrange, vous avez aussi stoppé la communication entre vous et votre PC. Car voilà quelque chose que vous ne reconnaîtrez pas chez le PC, vu que vous ne savez pas ce que c'est. Maintenant, si vous suivez cette procédure lorsque vous étudiez, vous constaterez que vous savez étudier. C'est très bien que quelqu'un vienne vous dire « Tu ne sais pas étudier, tu ne t'appliques pas ». C'est comme ça qu'ils traitent les élèves dans les écoles. Ils m'ont fait le coup. Ils m'ont fait le coup à l'école. On me disait tout le temps « Tu ne sais pas étudier ». Et je disais « Tiens donc, intéressant ça, je ne sais pas étudier ». Et je l'ai gobé. Je ne savais pas étudier. Je ne peux pas dire que ça m'a tracassé outre mesure, mais j'ai fini par découvrir qu'on ne me proposait aucune méthode d'étude à la place. Autrement dit, c'est comme si on vous disait « Tu ne sais pas préparer un canard à l'orange, tu es donc d'une bêtise à pleurer, vu que tu ne sais pas préparer un canard à l'orange. » C'est comme le gag des bécasses. Vous êtes censé rester des heures dans les bois, à tenir un sac, pendant qu'on rabat les bécasses sur vous. En fait, ils sont tous à la maison en train de boire le café, pendant que vous êtes en train de vous geler pendant des heures dans l'humidité des bois. C'est un gag aussi gros que ça. Tu ne sais pas étudier. Quelle bande de prétentieux, eux non plus ne savent pas étudier. Il n'existe pas de sujet appelé l'étude. S'il y avait un sujet appelé l'étude, il commencerait à vous l'enseigner à la maternelle. En tout cas, il vous l'enseignerait certainement avant que vous n'alliez au lycée. Il dirait « Voici comment on étudie ». J'ai vu beaucoup de systèmes, mais jamais dans des manuels officiels. Vous vous rappelez, à l'époque, les petits films, les petites comédies de Pete Smith ? Eh bien, j'ai vu des méthodes de ce genre pour se rappeler et apprendre. Mais je n'ai jamais vu de méthode d'enseignement publiée dans un manuel. J'ai une fois développé une méthode d'étude, entre guillemets, pour me défendre. Et je me rappelle très bien l'avoir employée en histoire. Elle consistait à ne pas passer au paragraphe suivant tant que je ne pouvais pas débiter par cœur le paragraphe précédent les yeux fermés. Ça n'a pas augmenté mes connaissances en histoire. En fait, j'ai remarqué que le mieux, c'est simplement de lire un livre d'histoire jusqu'à la fin, et si quelqu'un me demande une date, eh bien je regarde dans le livre. Voilà pour moi la meilleure méthode. La seule autre méthode d'étude que j'ai développée pour moi-même à l'école présente un certain intérêt. La voici. Elle consistait simplement à mettre la main sur tous les livres possibles et imaginables qui traitaient du sujet, et à les lire tous, sans me concentrer sur l'un d'eux en particulier. Voyez ? Je me rappelle avoir obtenu 20 sur 20 une fois, je m'en vantais partout où je passais, et à la suite de ce 20 sur 20, on me demandait partout de donner des conférences. Mais j'avais un peu mauvaise conscience, j'avais choisi l'histoire américaine, et tout ce que j'ai fait, c'est mettre la main sur tous les livres d'histoire américaine que j'ai pu trouver, y compris l'histoire des États-Unis en 5 volumes de Woodrow Wilson, le genre de volume dont on se sert pour caler la bibliothèque en cas de tremblement de terre. Et j'ai lu tous ces livres. Mais je n'ai jamais dit au professeur que je n'avais jamais lu le manuel d'histoire qu'on nous avait donné pour l'année scolaire. Je ne l'avais pas lu parce que j'étais allergique à sa prose. J'ai lu tous les autres livres sur lesquels j'ai pu mettre la main, mais pas celui-là. Sa prose me hérissait. Elle était abominable. C'était une espèce de prose socialiste et bizarre, extrêmement pédante. Ce n'est pas que l'auteur employait des mots difficiles. En fait, il aurait pu y aller plus franchement. Là où il aurait dû employer de grands mots pompeux, il mettait des mots bizarres. Il ne savait pas écrire. Et c'est pourquoi je n'ai pas lu le manuel de l'école. Mais j'ai lu tous les autres livres, et j'ai eu 20 sur 20, et j'ai donné des conférences d'histoire, et j'ai reçu des médailles et des coupes, parce que j'étais un étudiant extraordinaire. En fait, c'était simplement que j'avais tout lu sur le sujet. Et j'ai constaté que c'était une méthode fiable, relativement fiable, quand vous ne disposez pas de la moindre méthode d'éducation, comme c'est le cas dans les écoles américaines. Si vous ne disposez d'aucune méthode d'éducation, eh bien, mettez la main sur tous les livres sur le sujet que vous pouvez trouver, et lisez-les tous, de bout en bout, en vous assurant très soigneusement, je le fais maintenant et je l'ai toujours fait, de ne pas passer de mots que vous ne connaissez pas. Trouvez un gros dictionnaire et une anthologie, et regardez chaque mot que vous ne comprenez pas, et voyez dans quel contexte il est employé, et assurez-vous de parfaitement posséder ce mot. Puis poursuivez votre lecture. Ça n'aurait aucune importance que vous lisiez le livre en 5 heures, peu importe que vous le lisiez lentement ou rapidement. Voilà ce que vous faites quand vous étudiez un sujet et que vous ne disposez d'aucun enseignement formel. C'est une très bonne méthode, une excellente méthode en fait, parce qu'à la fin vous avez vu le mot si souvent, vous l'avez cherché dans le dictionnaire tant de fois, que vous finissez par le comprendre, voyez. Vous dites, tiens, revoilà le profil Rembrandt. Qu'est-ce que ça veut dire déjà, profil Rembrandt? Eh bien, je suppose que ça doit être une façon de peindre de Rembrandt, mais qu'est-ce qu'ils veulent dire ici? Je vais revenir à cette page ici où c'était mentionné. Ah, en voici la description. D'accord, j'ai compris. La lumière principale n'est pas projetée sur le visage, on ne voit que la lumière secondaire. D'accord, j'ai compris. Parfait. Et puis vous continuez votre lecture, vous finissez par complètement oublier cette histoire de profil Rembrandt, mais quelques chapitres plus loin, paf, vous tombez sur le profil Rembrandt. Le quoi? Ah, oui, cette histoire de lumière secondaire. Je sais où je peux le trouver, je vais retourner en arrière. Ah, c'est ça. La lumière principale est projeté derrière le sujet la lumière secondaire sur son visage. Ouais, la majeure partie du visage se trouve dans l'ombre. Oui, j'ai compris. Rien de bien sorcier. Et puis vous continuez votre lecture. Vous passez à un autre manuel sur le sujet, et vous tombez sur la phrase « Quand vous photographiez un profil Rembrandt, etc., etc. » Ah, c'est comme ça qu'on s'y prend, on ajoute un autre spot. Très bien. Voyez, le mot n'est plus un obstacle dans votre étude. Définir les mots et chercher leur signification, c'est faire un peu comme le fleuve qui poursuit sans relâche son travail d'érosion, rongeant inlassablement les berges jusqu'à ce que son cours soit stable et régulier. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, je ne pense pas qu'il y ait des étudiants brillants et des étudiants idiots. À mon avis, ça n'existe pas. Parce que je n'ai jamais vu le rapport entre une connaissance du sujet et la stupidité ou l'intelligence de l'étudiant. Par contre, il y a les étudiants qui font attention et ceux qui ne font pas attention. Un étudiant peut étudier à toute allure tout en étant très prudent. La vitesse n'a même pas grand-chose à voir là-dedans. Ce genre d'étudiant sait quand il est tombé sur un os. C'est à peu près tout ce qu'il sait. Il est en train de lire ce paragraphe et soudain il se rend compte qu'il ne comprend rien Mais alors rien ce qu'il lit. C'est le brouillard. Il revient donc en arrière et trouve ce qui le bloque. Ah, voici le mot et le phénomène dont il ignorait tout. Si c'est un étudiant appliqué, il va tout laisser tomber jusqu'à ce qu'il ait trouvé le mot et le phénomène et qu'il en ait parfaitement compris le sens. Il va peut-être regarder un peu plus loin dans le texte pour voir si le mot est défini, mais il n'est plus en train d'étudier, il est en train de chercher la définition. Voilà donc un étudiant qui fait attention. Il aura l'esprit vif dans la mesure où il suit cette procédure. Son intelligence ne vient pas de quelque don inné ou de quoi que ce soit d'autre. Elle n'est même pas fonction de ses boutons. Et en scientologie, vu que nous étudions énormément et vu que nous étudions les outils dont nous nous servons pour étudier, il nous faut donc bien posséder le sujet de l'étude. Il est absolument impératif pour nous autres scientologues de savoir étudier. Fini l'époque où nous allions voir quelques pauvres étudiants malchanceux pour lui dire « Eh bien, ton problème, c'est que tu ne sais pas étudier. » Et puis nous le laissions planter là. Ou encore, nous parlions d'un autre étudiant « Il est bête, c'est tout, ça explique tout. » Franchement, ça n'explique rien du tout. On nous dit qu'il y a l'étudiant rapide comme l'éclair, qu'il y a l'étudiant très très rapide, qu'il y a l'étudiant qui étudie comme un escargot, qu'il y a l'étudiant brillant, etc., etc. Et franchement, ces classifications ne valent pas mieux que la psychiatrie. Pourquoi ? Parce qu'elles n'ont jamais permis de produire, invariablement, des étudiants rapides. Visiblement, il s'agit simplement d'excuses et de justifications. Comme on n'est pas arrivé à résoudre le problème, on a essayé d'établir des classifications. Donc, pourquoi parler d'étudiants bêtes, d'étudiants lents ou d'étudiants brillants ? Il existe certains phénomènes dans le domaine de l'étude qui méritent qu'on en parle. Et l'un d'eux, c'est cet oiseau qui est pratiquement capable de mémoriser des choses d'un simple coup d'œil et de vous recracher le texte mot pour mot. J'ai vu des écoliers chinois faire ça et battre tous les records. Ça ne s'était jamais vu dans le monde anglo-saxon ou dans le monde occidental. Ils étaient capables de vous réciter des pages et des pages de formules mathématiques et leurs descriptions, etc., etc. La chose la plus phénoménale que vous ayez jamais vue, le matin ils arrivaient à l'école, leurs leçons apprises, et vous leur demandiez « Très bien, donne-moi la formule de l'inclinaison. » Eh bien, la formule de l'inclinaison, c'est nanana. Tout y était, voyez. Et vous disiez, mince. Mais ne dites pas aussitôt, voilà l'homme qu'il nous faut pour construire la digue. Parce que construire des digues et apprendre par cœur n'ont rien à voir. Nous ne savons même pas s'il est capable de résoudre les problèmes qu'il y a sur la page. Bien qu'il ne fasse aucun doute qu'il est capable de se souvenir de son contenu. Mais c'est simplement un test de mémoire. Maintenant, si vous voulez vous assurer de la compétence de cette personne, interrogez-la. Et vous verrez immédiatement là où le bât blesse. Vous le verrez immédiatement. Il existe une méthode d'examen qui satisfera à la fois l'instructeur et l'étudiant. Prenez n'importe quel mot peu courant. Dans le premier paragraphe que l'étudiant vient de vous réciter avec une si belle volubilité, et demandez-lui la définition de ce mot. Une définition qui n'est pas donnée dans le sujet qu'il étudie. Et si vous voyez son visage prendre une expression horrifiée, une expression de bête traquée, c'est que vous avez affaire à un beau parleur qui répète de mémoire. Vous avez jeté un grain de sable dans sa machine bien huilée, parce que vous lui avez demandé quelque chose qui n'a rien à voir avec la mémoire. Vous avez demandé la définition d'un certain mot. Et si la personne, écoutez bien ce que je vais vous dire, si la personne est capable de vous donner tout le paragraphe, mais qu'elle est incapable d'en définir l'un des mots, c'est qu'elle doit nager en plein mystère. Donc l'ingrédient manquant ici, c'est la compréhension. Et naturellement, très vite, il y aura un autre ingrédient manquant, l'application. Voyez comment ça marche. Autrement dit, cet étudiant très très rapide et l'étudiant lent se cassent le nez sur le même problème. En d'autres termes, ce facteur fait trébucher tout le monde. Maintenant, si quelqu'un arrive pour être interrogé sur le même texte, et qu'il a toutes les peines du monde à réciter ce texte, là aussi l'instructeur pourrait lui demander la définition de ce mot. Quelle est la définition de ce mot? Et l'étudiant dit, je n'en sais rien. Vous pouvez donc le mettre dans le même panier que l'étudiant rapide, non? Donc l'objectif de l'étude, c'est la compréhension. Et si en plein milieu, vous avez un mot et un phénomène que vous ne comprenez pas, eh bien vous ne comprendrez rien du tout. Vous allez être frappé d'incrédulité et d'incompréhension, vous nagerez en plein mystère. Et bien sûr, vous ne pourrez pas appliquer les données. Maintenant, si nous examinons l'étude d'un peu plus près, nous constatons que le reproche principal, c'est que l'étude n'aboutisse pas immédiatement à une bonne application claire et nette. C'est l'une des premières choses qu'on reproche à l'éducation moderne. Vous formez un ingénieur et vous n'osez pas l'envoyer construire un pont. Eh bien voilà qui appartient au domaine de l'application. Mais si cet homme, après avoir appris à construire un pont, n'est pas capable d'aller construire un pont, c'est bien sûr parce qu'il n'est pas familiarisé avec la chose. Mais même si on lui est tombé dessus, sans pitié, chaque fois qu'il butait sur un mot lié à la construction des ponts, et qu'on lui en a demandé la définition, il devrait être capable de prendre son sextant et son théodolite et de se mettre au travail. Il devrait en être capable. Il a maintenant l'horrible tâche de se familiariser avec la chose. Mais il n'en serait pas empêché par une mauvaise compréhension de la terminologie et de ses outils. Voyez, théoriquement, il pourrait se mettre au travail. Ça m'est arrivé l'autre jour, il m'a fallu résoudre un certain problème dans ce domaine que j'étudie parallèlement, alors que ma connaissance de ce problème était purement théorique. Et ce problème s'est présenté, j'ai appliqué ce qui était écrit dans le manuel, et j'ai résolu le problème. Paf ! Et j'avais peut-être 2 ou 3 secondes pour le résoudre, parce qu'il s'était produit quelque chose qui requérait une intervention éclair de ma part, voyez ? Je connaissais uniquement la théorie, mais ça a marché à la perfection. Par conséquent, vous devriez, à partir d'une connaissance purement théorique, à condition que le manuel soit bon et que le sujet soit d'une quelconque valeur, pouvoir directement appliquer ce que vous avez étudié sans être familiarisé avec la chose. Mais pensez un peu au crack que vous seriez si en même temps vous étiez familiarisé avec la chose. C'est pourquoi nous étudions l'auditing tout en auditant. Oui. Mais si vous n'êtes pas un étudiant appliqué, c'est-à-dire si vous n'apprenez pas la nomenclature, vous allez vous fourrer dans le pétrin. Vous courez à l'échec. J'ai étudié ce sujet, la photographie, avec énormément d'applications. Parce que sa terminologie est un véritable casse-tête chinois. Cette terminologie, vous croiriez que des photographes très très expérimentés la connaîtraient très bien, qu'ils ne pourraient pas faire autrement que la connaître très bien. Oh non, 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 non. Vous vous en rendez compte après avoir étudié tous ces manuels les uns après les autres. Maintenant, si vous étudiez un petit cours qui ne va pas très loin, qui n'est pas destiné à faire de vous un professionnel, qui dit « voici comment développer des photos », le manuel du photographe débutant de Eastman, vous voyez le genre. J'en ai lu un nombre incalculable. Eh bien, ce genre de cours n'a rien à voir avec celui que je suis en train d'étudier. Dans mon cours, c'est vraiment la charge de la brigade légère, feu à volonté, chargé avec les baïonnettes, vous savez. Vous prenez le métabisulfure et vous le versez dans le spitounio. Et vous dites, vous prenez le quoi? Et dans les leçons suivantes, vous vous retrouvez en train d'étudier un sujet qui n'a rien à voir. Ou bien, n'oubliez pas de placer correctement le cache-tête. Le quoi? D'où que ça sort ce truc-là, jamais vu ça avant? Qu'est-ce que ça peut bien être un cache-tête? Flap, 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 vous regardez dans le dictionnaire. Tiens donc, Ce n'est pas dans le dictionnaire. Le mot est si courant qu'on n'a pas jugé bon de le définir. N'empêche que je ne le connais pas. Bon, je me fiche d'avoir l'air stupide. Flap, 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 je cherche. Et finalement, j'ai trouvé ce que le mot voulait dire en regardant le contexte et une illustration. Il y avait une image qui montrait tout l'équipement photographique dont vous avez besoin. De toute évidence, un cache-tête, c'est un écran dont on se sert pour atténuer une part de la lumière principale, par exemple pour qu'une oreille qui ressort trop ne ressorte pas. Évident, non? Qui aurait pensé à ça? Un instrument absurde, mais très employé. Le gars qui a écrit le manuel connaissait si bien le sujet qu'il a fait comme vous quand vous dites « Eh bien évidemment, vous installez d'abord votre électromètre sur la table. » Vous le dites presque d'une façon sarcastique, voyez. « Bien évidemment, vous allez installer d'abord votre électromètre sur la table avant de commencer à auditer. » Si vous vouliez vraiment être sarcastique, vous feriez ce genre de remarque. Et ce type, ce gars, cet expert en portrait qui est plus fort que tous les experts en portrait, vous dit « Bien sûr, vous mettez un cache-tête pour atténuer la lumière. C'est comme ça qu'on atténue la lumière. » Il vous le dit, là, comme ça, en passant. Voilà comment vous faites pour que certains traits du visage un peu ingrats se voient moins. Lorsque vous faites un portrait, vous atténuez la lumière qui est projetée sur ces traits. Avec quoi on atténue la lumière? Vous recevez le même genre de réponse que dans le livre. Alors, ne posez pas de questions idiotes. Oui, mais avec quoi atténuez-vous la lumière? Mais avec un cache-tête, espèce de crétin. C'est quoi un cache-tête? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est quelque chose qu'on met devant l'objectif de l'appareil pour qu'on ne puisse pas voir la tête du sujet? Donc, je me suis bien amusé, parce que j'ai pu prendre un autre point de vue, j'ai vu les problèmes d'études que vous rencontrez, et j'ai analysé ces problèmes, et je les ai groupés. Ce dont je vous parle et ce dont je vous ai parlé récemment, c'est tout ce que j'ai observé et découvert et qui s'applique, je le sais, à notre propre domaine et je pense que cela vous a permis de faire quelques progrès. Mais c'est tout ce qu'il y a à dire sur l'étude. Vous pensiez probablement que l'étude comporterait tout un tas de facteurs complexes, mais en fait elle ne comporte que les facteurs dont je viens de vous parler. Maintenant, bien sûr, si vous ne saviez pas lire ou écrire le français, il faudrait une étude plus approfondie de la nomenclature. Mais ce ne serait pas autre chose qu'une étude approfondie de la nomenclature. Donc même ce genre de choses viendrait se ranger dans ce domaine particulier. Maintenant, prenons quelqu'un qui ne sait pas du tout parler, ou disons un animal. Il essaye d'étudier. Il n'arrive pas à communiquer. Il n'a pas les cordes vocales pour ça. Impossible de lui enseigner quoi que ce soit. Vous dites, c'est peine perdue. Eh bien, je ne suis pas tout à fait disposé à jeter l'éponge. Parce qu'il m'est déjà arrivé de rendre des animaux beaucoup plus haut de ton. Et j'ai déjà rencontré des chiens qui savaient parler. Oui, j'ai rencontré un chien une fois qui disait faim, chaque fois qu'il voulait à manger. Il y arrivait assez bien. Il se servait d'une méthode hollywoodienne de respiration par le diaphragme, mais il était capable de dire très clairement qu'il avait faim. Ça laissait la plupart des gens bouche bée, il disait « C'est marrant, ce chien a émis un grognement, et la maîtresse qui l'a élevé prend ça pour des mots. » Et puis ils entendaient ce chien dire « faim », et vous les entendiez s'exclamer « Ça alors !» Et l'autre jour, j'ai parlé à un éléphant qui voulait que je prenne sa photo, je vous ai déjà raconté cette histoire, et j'ai vu des animaux qui connaissaient leur rôle bien mieux que leur dresseur et qui, pendant le spectacle, faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour que le dresseur garde une bonne image. Donc, je ne vois pas quels sont les obstacles à la communication. Dernièrement, j'ai étudié la cinquième dynamique. Jamais je ne l'avais examinée d'aussi près. Et j'ai découvert que vous pouviez aller plus profondément dans la cinquième dynamique. En fait, je vois très bien les GPM dans lesquels certains insectes et certains animaux restent bloqués. Je sais comment ils viennent se fourrer là-dedans et comment ils dégénèrent. J'ai pas mal approfondi la question. Quoi qu'il en soit, ce que je veux dire, c'est que la communication de la nomenclature de la langue, l'aptitude à parler ou à communiquer, serait le premier obstacle, voyez ? Et cela s'applique même au gars qui connaît le français, qui sait lire, qui étudie, etc. Mais bien sûr, son niveau de communication est si élevé qu'il ignore avec mépris ses petites inaptitudes à communiquer, et il passe dessus. Et à cause de cela, il subit des échecs cuisants dans le domaine de l'étude, et c'est à peu près la première chose sur laquelle il trébuche. Il y a bien des façons de faire échouer un étudiant, mais la meilleure, ce serait de ne pas lui faire voir la nécessité de comprendre les symboles de communication employés. Ce serait une lacune de taille dans le domaine de l'étude. Nous n'avons jamais publié de dictionnaire proprement dit. Il y a plusieurs manuscrits de dictionnaires qui traînent un peu partout. Malheureusement, il faut que je les revoie tous, de A jusqu'à Z, avant qu'ils puissent être publiés. Il y a un nombre incroyable de mots. Pour terminer ce travail, il va falloir que je trouve 12 heures quelque part dans les 48 heures qui composent mes journées. Et je peux vous dire qu'un tel travail, ce n'est pas de la tarte. Et je ne voulais pas m'attaquer à ce travail tant que la nomenclature n'était pas plus ou moins complète. Si elle avait été plus ou moins complète et que je m'y étais attaqué, le travail serait déjà terminé. Mais je vous ai donné les définitions des mots qui apparaissent au niveau 6. Je les ai rassemblées et elles ont, j'en suis sûr, été publiées. Donc vous pouvez définir ces mots et voir de quoi il s'agit. Mais même si nous ne possédons pas de dictionnaire relié cuir, ça ne vous empêche pas de chercher la définition de ces mots. Ces mots sont connus, les gens ici savent ce qu'ils veulent dire, donc il n'y a pas vraiment de raison de publier un tel dictionnaire. Bon, il vous faut une demi-heure pour apprendre ce mot. Mais c'est une demi-heure qui ne sera pas multipliée par 10 à la fin du cours. Vous ne serez pas en train de vous demander à la fin du cours pourquoi vous n'arrivez pas à comprendre tel ou tel principe de base. Eh bien, j'espère que ce que je vous ai dit aujourd'hui vous aidera. Merci beaucoup.